Pour la troisième saison de Parents pour la première fois, le balado est commandité par l'entreprise Bien chez soi, une entreprise de soutien à domicile qui appartient à ma sœur. Bien chez soi offre notamment des services de nounou qui comprennent l'aide au repas et aux devoirs, l'entretien ménager et des soins pour les personnes plus vulnérables. À la suite d'une consultation gratuite et personnalisée, un ou une préposée qui correspond à vos besoins est sélectionné afin de créer un lien de confiance et de stabilité entre les préposés et les clients. Les services sont éligibles à des crédits d'impôt allant jusqu'à 75% de la facture. Je vous invite à aller visiter le site internet www.bienchezsoi.ca pour plus d'informations. Bienvenue à Parents pour la première fois. L'invité de cette semaine est Camille Perrault. Allô Camille?
Allô!
Tu as deux enfants de 4 ans et 1 an et tu es une personne non-binaire. J'aimerais ça, en fait, que tu élabores dans tes mots, c'est quoi la non-binarité?
OK. Donc, la non-binarité, en fait, il n'y a pas une définition exacte pour chaque personne non-binaire. T'sais, chaque personne non-binaire, je pense, va avoir un peu sa définition spécifique pour eux, mais dans le fond, en gros, être non-binaire, c'est être hors de la binarité. La binarité, c'est homme ou femme. Donc, que ce soit homme, femme, cisgenre ou homme, femme, transgenre, c'est comme être hors de ces deux catégories-là.
Okay.
Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un spectre linéaire. T'sais, si tu me tends sur une... Si on s'imaginait comme une droite, là... C'est plus, mettons, du côté femme, plus du côté homme, plus dans le milieu, mais c'est plus comme un genre de spectre circulaire, là, comme je suis une personne visuelle, là, mais tu sais, comme quand les color droppers, tu sais, comme un cercle de toutes les couleurs, là, c'est plus ça qui représente un nombre d'artistes parce que c'est tellement varié, tu sais, il n'y a pas de paramètre définitif. Le seul paramètre qui est comme commun à toutes les personnes non binaires, c'est ne pas s'identifier à homme ou femme.
OK.
C'est ça.
OK. Puis est-ce que tu as toujours été non-binaire? Est-ce que c'est récent que...
Ben, j'ai toujours été non-binaire, mais j'ai pas toujours eu les mots pour dire que j'étais non-binaire. Je pense que ça a plusieurs facteurs. En fait, malheureusement, en français, puis dans le niveau académique, du côté académique francophone, il y a beaucoup moins... de recherche, d'études, de tout ça, ce qui englobe, mettons, l'étude des genres, c'est moins, on va dire, développé du côté francophone. Il y a beaucoup, beaucoup de tout ça du côté anglophone. Fait qu'on dirait que pendant longtemps, ben, je suis bilingue, mais je parle, ma langue maternelle, c'est le français. Fait que pendant longtemps, on dirait qu'il manquait un peu du vocabulaire puis de l'information. En fait, c'est ça, t'sais, puis c'est quand même récemment que ça fait partie de la discussion, on va dire, mainstream, que ça existe, la non-binarité. T'sais, ça a toujours existé, mais ça ne faisait pas partie de la discussion sur la place publique. Ce n'était pas quelque chose qui était connu. Pendant longtemps, je me posais beaucoup de questions par rapport à moi-même, mais sans jamais trouver de réponse. C'était un peu difficile. Puis, en fait, le déclic, c'est quand je t'enseigne de Blair, puis je faisais beaucoup de recherches sur la parentalité non-genrée puis ouverte sur le genre. Puis... Bien, évidemment, il y a beaucoup de parents trans qui adoptent ces pratiques-là parce que, tu sais, eux autres, ils ont vécu, mettons, la difficulté d'être élevés de façon traditionnelle en étant trans. Puis, c'est comme en lisant les témoignages de parents non-binaires que j'ai comme fait « aïe, aïe, OK, tu sais, c'est ça ». Puis, j'ai lu plus sur la non-binarité puis j'ai comme compris que moi, je faisais partie de ces personnes-là.
OK. Puis là, justement, tu as parlé de parentalité non-binaire. Donc, comment que ça s'applique au niveau de la parentalité? C'est que dans le fond, peu importe le sexe à la naissance de ton enfant, tu le considères non-genré, tu as une parentalité non-genrée?
Bien, en fait, l'approche parentale, donc, officiellement, le nom, c'est la parentalité non-genrée.
Mm-hmm.
Mais moi, je préfère l'appellation parentalité ouverte sur le genre. Parce que le but, c'est pas de faire un enfant qui est non-genré, c'est de soutenir son enfant, peu importe c'est quoi son genre. T'sais, le but, c'est pas de faire un enfant neutre, c'est de faire un enfant qui va être épanoui, peu importe c'est quoi son identité de genre. Donc, ça veut dire, pour nous, là, c'est comme chaque famille qui pratique la parentalité ouverte sur le genre ou non-genré, ils vont avoir leur variation de tout ça, t'sais, comme dans n'importe quelle approche parentale.
Ouais.
Pour nous, ce qu'on s'est mis, mettons, comme balise, on va dire, c'est du côté vestimentaire, on portait n'importe quelle sorte de vêtements, juste là qu'ils choisissent eux-mêmes leurs vêtements.
OK.
Puis pour les jouets, ben, ils ont des jouets de toutes sortes, on ne limite pas, mettons, les jouets aux stéréotypes de genre. Puis où nous, on est peut-être allé plus loin que certaines familles qui pratiquent la parentalité non genrée, c'est qu'on a choisi de donner des noms unisexes à nos enfants. Donc, ils ont des prénoms unisexes, puis ils ont un deuxième prénom qui est genré, mais qu'on garde pour nous. T'sais, la plupart des gens ne connaissent pas le middle name de nos
Ouais.
enfants, qui ont un prénom qui est associé à leur genre assigné à la naissance.
Puis
Puis
pourquoi vous
l'autre.
avez voulu qu'il y ait un middle name associé à leur genre?
Ben, en fait, on voulait un middle name au début. Ben parce que je trouve ça cool comme tradition de donner un deuxième prénom, ce qui est peut-être plus anglo-saxon, là, comme mon conjoint est anglophone, puis lui, il a comme un deuxième prénom. Puis souvent, le deuxième prénom, ça va être un prénom qui est plus, pas honorifique, mais tu sais, qui honore quelqu'un. Fait que, tu sais,
Ouais.
mettons, nous, les enfants, ils ont des prénoms qui, c'est des prénoms de grands-parents, puis des membres de notre famille. Puis vu qu'on voulait garder cette angle-là de comme, choisir des prénoms qui sont comme qui ont des significations, on va dire, familiales, ben c'est des prénoms genrés parce que les grands-parents, il y avait des prénoms genrés. Fait qu'on est allé avec les prénoms qui sont associés à leur genre assigné, mais aussi en disant que statistiquement, il y a plus de chances que nos enfants soient cisgenres anyways. Fait que si à un moment donné, à l'adolescence, ils préfèrent utiliser des prénoms plus traditionnel, on va dire. Puis pas que nos enfants ont des prénoms tant wild que ça, là, mais tu sais, mettons que Blair ou Willow voudraient utiliser des prénoms plus traditionnels, ben il y aurait ça qu'ils peuvent utiliser, tu sais. L'autre affaire, mettons, qu'on a faite, qui est peut-être plus poussée que certaines autres familles qui font la parentalité non genrée, c'est qu'on n'utilise pas, mettons, le terme mon fils ou ma fille. Tu sais, comment on parle à nos enfants, on parle avec des mots qui s'appliquent à tous les genres. Dans le fond, on essaye d'être neutre dans notre langage, sauf qu'on est. Mon conjoint anglophone, ce qui est très facile à faire en anglais, la
En anglais,
neutralité,
ouais.
là. Mais en français, c'est une autre paire de manches. Fait que nous, ce qu'on a décidé, c'est que on allait utiliser les pronoms associés à leur genre assigné. Parce qu'en français, ça devenait trop compliqué. Puis au moment où Blair est né, il n'y avait pas encore de hyper gros consensus pour un pronom neutre francophone. Puis c'était comme une autre affaire de plus à gérer. Puis il y a comme eu des soucis à la. En tout cas, j'ai eu une naissance un peu catastrophe à Blair. Il était hospitalisé, il y avait un mois. Fait, il y avait comme plein d'affaires extra à gérer. Fait qu'on s'est dit, OK, on va garder ça simple. Puis on a juste comme roulé avec ça par la suite. Parce que jusqu'à sa naissance, on n'était pas certain encore si on allait comme. Quelle approche on allait avoir pour les pronoms, mais comme. La vie a fait en telle sorte qu'on a juste décidé pour se simplifier la vie dans ce moment-là plus intense d'utiliser les pronoms à assigner, associés au genre assigné à la naissance. Puis comme on a fait ça pour Blair, on fait la même chose pour Willow. Mais on garde ça comme pour notre cercle d'amis, tu sais, nos amis proches, tu sais, comme sur les réseaux sociaux, on garde le genre assigné nos enfants privés parce qu'on juge que ça fait partie de leur vie privée. Parce que le genre assigné, ça se base sur les organes génitaux, en fait, des enfants. Puis qu'on est comme, tu sais, c'est comme une information que les gens n'ont pas besoin de savoir, tu sais, c'est quoi qu'il y a dans les culottes de nos enfants. Fait que juste en tant que nos enfants s'affirment dans leur genre, comme Blair a fait récemment, bien, on garde ça privé. C'est notre
Mais
décision, hein, qu'on a prise.
c'est ça, parce que dans le fond, l'objectif dans tout ça, c'est que il soit pas, c'est ça, qu'il n'y ait pas de genre assigné, puis qu'éventuellement, ils puissent s'identifier à un genre plus qu'un autre, peu importe leur organe génital. C'est ça?
Exactement, ouais.
OK. Donc là, Blair, qui a 4 ans, a commencé à s'affirmer, à s'identifier à un
Ouais,
sexe plus qu'un autre.
vraiment. Blair va avoir comme 4 ans dans 3 semaines. Puis je dirais que Blair, à l'âge de 3 ans et demi, a commencé vraiment à s'affirmer dans son genre. Fait que ça fait un bon 6 mois que Blair dit qu'il est un garçon, ce qui correspond à son genre assigné à la naissance, en fait. À partir de maintenant, on assume que Blair est cisgenre. C'est sûr que les choses peuvent changer en vieillissant, mais si on se fie, mettons, à la littérature sur l'identité de genre, sur compréhension du genre chez l'enfant, puis sur l'auto-identification du genre. Un enfant qui a eu comme la liberté d'exprimer son genre par lui-même devrait pas trop changer d'idée, entre guillemets. Parce que c'est pas changer d'idée, là, c'est comme... c'est plus compliqué que ça.
Ouais.
Mais fait pour l'instant, Blair ça a commencé à s'affirmer comme garçon il y a quelques mois, puis maintenant, c'est comme... ça fait partie de sa vie, de son identité, puis il est super confortable là-dedans, puis on est comme super content pour lui qu'il soit bien dans son identité.
C'est quoi les mots que... il a utilisé pour définir ça?
Pour s'identifier, dans le fond, oui.
Ouais.
Nous, on lit beaucoup avec nos enfants. Comme okay. Je pense bien des parents, on lit beaucoup de livres, plein de sujets. Et puis je pense que la lecture, c'est un super bon outil pour amener des sujets plus complexes aux enfants. Donc, on a plusieurs livres, en fait, qui parlent d'identité de genre, type de, là, qui parlent de façon très, très adaptée aux enfants en bas âge, on s'entend.
Oui.
De l'identité de genre, des personnes trans, des personnes non-binaires. Fait que c'est des livres qui amènent des discussions.
Okay.
Donc, Blair, depuis toujours, depuis que Blair est tout petit, quand on lui parle, Blair sait qu'il y a des personnes qui sont des hommes, des personnes qui sont des femmes, des personnes qui sont non-binaires parce que moi, je suis non-binaire. Puis, tu sais, on lui explique ça. Puis que c'est pas que les organes génitaux, ça peut pas dire ton genre. T'sais, les organes génitaux, c'est quelque chose, puis le genre, c'est une autre chose, c'est indépendant. Fait que pour lui, on n'y a jamais dit, les petits gars, ils ont tous des pénis. Comme ça fait vraiment pas partie de sa compréhension de c'est quoi le genre. Pour lui, le genre, c'est vraiment dans l'identité. Mm-hmm. Puis, quand tu lui demandes comment c'est que tu es un garçon, mais c'est parce qu'il te répond lui-même, mais parce que je me sens comme un garçon. C'est okay. Comme ça que je me sens à l'intérieur. Puis, en fait,
moi, c'est pas par rapport à des intérêts, c'est pas par rapport à...
Non.
C'est ça, parce qu'en fond...
C'est pas ça, tu sais.
Non.
C'est sûr que je pense que c'est confrontant quand on parle de ça, parce que c'est tellement différent de qu'est-ce qu'on a appris, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont comme des genres de réactions vraiment épidermiques là, quand ils entendent parler de ça. Mais vraiment, tu sais, moi, je trouve ça merveilleux parce que t'sais, on s'est fait confiance dans comment on voulait élever nos enfants. Puis, t'sais, on voit que ça fonctionne bien.
Ouais.
Nos enfants, Willow a un an. C'est un bébé très, très épanoui et jovial. T'sais, c'est dur à dire. C'est un bébé content, là, je veux dire. Ouais. C'est un bébé. T'sais, on voit que Blair, c'est un enfant super allumé, super empathique, super tolérant des différences, puis surtout, c'est comme super confiant puis bien dans sa peau, puis c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment important, puis c'est quelque chose qu'on veut vraiment comme encourager pour le reste de sa vie, tu sais, parce qu'on sait à quel point la confiance en soi, c'est important pour tout le monde, là.
Autant pour soi, pour notre propre réussite en tant qu'humain,
oui, mais aussi
dans nos relations avec les autres.
Exactement.
La confiance puis l'estime qu'on a là, de soi. T'as-tu des livres, justement, à conseiller sur...
Ben, il n'y a pas beaucoup de... des livres sur la parentalité non-genrée. Moi, j'ai surtout lu des articles, on va dire scientifiques. Je suis une personne
mais,
très...
mettons ce que tu montres aux enfants.
Oui, dans le fond, là, le livre que plus accroché Blair, puis que moi, je trouve super fabuleux parce qu'on l'a lu des millions de fois, puis ça amène plusieurs discussions de sens, c'est « When Aiden Became a Brother », et à ma connaissance, ce livre n'existe pas encore en français. Okay. Ben, c'est ça, l'autre affaire, il n'y a vraiment pas beaucoup de littérature jeunesse, sur ces jeunesse, petite enfance, là, sur ces sujets-là qui existent, ce qui est un peu plate. Pour nous, au Québec, qui sommes il y a bien du monde francophone, fait qu'on n'a pas nécessairement accès à tout ça, mais When Aiden Became a Brother, c'est un livre génial parce que c'est un livre qui prépare à l'arrivée d'un bébé dans la famille, fait que c'est un livre qui a deux utilités, on va dire, et c'est un livre qui met en vedette un enfant, le grand frère, qui est dans le fond un petit garçon transgenre, fait que ça amène beaucoup de discussions sur, ben, dans le fond, quand Aiden est né, Aiden ne s'appelait pas Aiden, puis Aiden était vraiment malheureux. Puis là, ses parents ont compris qu'est-ce qui se passait. Aiden est devenu Aiden, tu sais.
Okay.
Puis c'est vraiment amené de façon comme super fluide puis comme ludique. Les illustrations sont super belles. Puis c'est un livre qui a beaucoup amené de discussion parce que tout le monde qui a des enfants de 2 à 5 ans et plus savent que à quel point des toddlers, des bambins, ça pose des questions à l'infini. Donc, c'est un livre qui a amené beaucoup de questions puis qui nous a permis d'offrir beaucoup de réponses aussi parce que c'est les enfants comprennent merveilleusement bien des sujets plus complexes comme l'identité de genre, mais en même temps, ça leur prend quand même quelque chose de concret pour comprendre.
Ouais.
C'est un livre qui a beaucoup aidé. Sinon, le livre Julien est une sirène, ça, c'est plus un livre, c'est magnifique. Ce livre anglophone a été traduit. Puis il y a un deuxième livre de la même auteur, je ne me rappelle plus du titre, mais ça, c'est plus comme, on va dire, un enfant qui est fluide, mettons, dans son expression. T'sais, c'est un garçon, mais il va se déguiser en sirène parce qu'il veut être une sirène, comme les sirènes qu'il voit, mettons, dans un défilé.
Ouais.
C'est vraiment plus poétique, mettons. Il n'y a pas de grosses explications, il n'y a pas beaucoup de textes, mais il y a beaucoup d'illustrations qui permettent d'engager, mettons, une discussion avec des enfants si les enfants sont un petit peu plus vieux.
Okay.
Il y a ce livre-là qu'on aime beaucoup. Sinon, il y a Élise Gravel qui a le livre « Tu peux ».
Ouais.
Qui est très cool pour déconstruire les stéréotypes de genre.
Ouais.
Ça n'aborde pas, mettons, la non-binarité du tout, en fait. Là. Mais
elle en sort un autre, non, qui s'en vient.
Il y en a un qui s'en vient, je suis pas mal certaine, qui va aborder la créativité dans le genre. Parce que quand on parle des enfants, souvent, des enfants qui sont, on va dire, entre guillemets, non conformes dans le genre, c'est un terme qu'on n'utilise plus, qui va être utilisé maintenant, c'est les enfants créatifs dans le genre. C'est un livre qui va aborder ce sujet-là, ce qui est super cool parce que j'adore Élise Gravel. Je pense qu'on est beaucoup à triper dessus.
Ouais.
Puis c'est cool parce qu'au Québec, on n'a pas vraiment d'auteurs qui couvrent ces sujets-là pour la petite enfance.
Mais c'est ça. Puis c'est encore des délicats. Puis c'est ça, tu vois un peu. C'est ça, c'est pas traditionnel. Hein. Je pense qu'on est bon là-dessus au Québec de rester dans tout ce qui est traditionnel.
Ouais.
Là, mais c'est ça.
Oui.
Tranquillement, oui, ça fait son chemin.
Ouais. Oui, c'est ça, tu sais, ça progresse. Puis où on en est maintenant avec tout ce qui a trait à la question de l'identité de genre, des personnes transgenres, des enfants créatifs dans le genre, c'est comme une comparaison, c'est pas parfait, mais je pense que ça aide à bien comprendre puis à mettre en contexte, tu sais, si on remonte, il y a comme 10, 20 ans, 30 ans, les droits des personnes homosexuelles, comment les personnes homosexuelles étaient comme traitées dans la société, comment elles étaient acceptées. On est comme à 30 ans en arrière, mais pour les personnes. J'ai de la misère à l'expliquer clairement.
Non,
on
mais
est où on était il y a 30 ans avec l'homosexualité aujourd'hui pour ce qu'il y a les droits puis la tolérance face aux personnes créatives dans le genre.
Ouais.
J'ai espoir que comme pour les personnes homosexuelles, ben on finisse par comprendre que c'est super normal, c'est merveilleux, c'est correct, c'est parfait, il n'y a rien là, que ce cheminement qu'on a fait pour les personnes homosexuelles, pour leurs droits, pour leur acceptation, ben, tu sais, qu'on progresse et qu'on se rend dans la même place pour le droit des personnes trans. Parce que c'est sûr que ça avance. Mais, tu sais, moi, je suis beaucoup dans les sphères où il y a beaucoup de personnes queer, beaucoup de personnes trans, beaucoup de personnes créatives dans le genre. Fait que des fois, je suis comme dans ma bulle.
Oui, puis tu penses que c'est pareil comme ça pour tout le monde autour de...
tout va bien, c'est cool, yes, égalité, gang. Puis là, genre, je sors de ma bulle, puis c'est ça, j'ai comme un chat, tu sais.
Je comprends, oui. Puis justement, toi, ton conjoint, est-ce que c'est une personne aussi non-binaire?
Non, mon conjoint est cisgenre, fait que ça veut dire que c'est un... Il a été assigné garçon à la naissance et c'est un homme. Non, c'est ça. Mais tu sais, tous deux, on a comme beaucoup de personnes queer dans notre entourage. Fait que tu sais, c'est comme quelque chose qui allait de soi pour nous, comme en parlant de l'éducation non genrée. Là.
Ouais. Mais je trouve ça intéressant, honnêtement. Je trouve que c'est une bonne idée de dans le fond, c'est ça, peu importe l'organe génital, de laisser à l'enfant l'opportunité de s'identifier. Puis d'être lui-même, tu sais, complètement. Puis je me souviens qu'on en parlait à Aaron aussi, que Justement, ça évite un peu les espèces de coming out plus tard.
Oui.
Parce que tu as peur un peu de t'afficher alors que c'est, il n'y a rien de plus naturel que ça, dans le fond. T'as comme, ouais. Tu développes un peu cette peur-là de t'identifier au genre, dans le fond, qu'on t'a comme imposé finalement, tu sais,
oui.
À cause de ton sexe, tu sais, je comprends ça, tu sais.
Ouais, puis tu sais, c'est comme un gros mouton à comprendre, parce que c'est beaucoup de déconstruire.
C'est ça, ben, des apprentissages de. Ouais, exactement.
Mais, tu sais, puis après, je pense que tout le monde a droit à son opinion, tout le monde fait de son mieux pour ses enfants, ça, c'est quelque chose que je pense fortement. Mais, il y a une partie de moi, tu sais, quand je regarde, mettons, des statistiques sur les enfants et les ados transgenres, surtout, ou qui sont non-binaires, ou qui sont juste créatifs dans le genre, ou plus marginalisés par rapport à leur identité de genre ou sexuelle, tu vois, là, que il manque quelque chose. Dans comment on éduque nos enfants, il faut qu'on pousse plus l'acceptation autour de tout ça, parce que les taux de dépression, les taux de suicide, auprès des enfants et des ados trans sont comme, je ne me rappelle plus des chiffres par cœur, mais c'est comme quelque chose,
c'est triste,
extrêmement disproportionné, disproportionnel par rapport au reste de la population. Puis c'est comme, c'est déprimant, puis c'est tragique, parce que tant qu'à moi, c'est des choses qui auraient pu être évitées, parce que tu fais un enfant, tu es supposé l'aimer coûte que coûte, là.
Ouais.
Mais c'est sûr que dans une société où la question de l'identité de genre, c'est tabou, ben c'est sûr que pour certaines personnes, ça va être difficile à accepter. Puis c'est là que ça cause beaucoup de dommages à long terme pour les enfants.
Parce qu'ils pensent que c'est pas correct, finalement.
Oui,
puis ils se sentent pas corrects, oui.
C'est difficile pour beaucoup de parents, tu sais, que quand leur enfant, mettons, plus vieux, vers, mettons, on va dire 6, 7, 8, 10, and so on, fait son coming out comme étant trans, bien, il y a beaucoup d'enfants qui se ramassent, bien, que leurs parents ne les accompagnent pas du tout là-dedans. Les parents refusent d'accompagner leurs enfants là-dedans. Les enfants se ramassent super en détresse psychologique. C'est ça, ça peut se terminer de façon tragique. Des fois, les enfants réussissent, c'est comme à passer au travers de tout ça, mais tu sais, à quel prix, tu sais, c'est comme, OK, ton enfant trans, même si tu ne l'as pas accompagné, OK, il n'a peut-être pas fait de dépression, il ne s'est pas suicidé, mais il est rendu un adulte super, comme, brisé à l'intérieur parce que toute sa vie, il ne s'est pas senti accepté, tu sais. C'est dark, là, mais c'est la réalité. Puis c'est comme, c'est le genre de choses auxquelles je pense que la plupart des gens qui ne sont pas confrontés à la créativité dans le genre, tu penses pas à ça. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a des personnes trans, queer, créatives dans le genre, dans leur entourage, mais c'est pas tout le monde qui va nécessairement penser à ça quand vient le temps de faire des décisions pour l'éducation de ses enfants. Tu sais, comme, si tu sais pas à quel point c'est important ou que ça existe.
Ouais. Mais tranquillement, il y a quand même un petit cheminement
vraiment
à ça, même dans les jouets, je trouve qu'on en parle de plus en plus, tu sais.
Oui, vraiment.
Et c'est ça, ça fait son chemin.
Ouais.
Les vêtements aussi, je vois que ça aussi, c'est mis de plus en plus de l'avant, là, de pas, c'est pas parce que, tu sais, c'est d'avoir des choses plus neutres, là. Je trouve que c'est ça. Mais non, tu fais bien, puis c'est une des raisons pourquoi je voulais absolument te parler, parce que c'est ça, c'est pas... C'est pas un sujet qui est connu de tous, mais il faudrait, tu sais, je trouve que ça serait comme la moindre des choses.
C'est ça que j'essaie de dire, dans le fond.
Ouais.
C'est ça que j'essaie de dire, tu sais. Puis après ça, tu sais, les gens font les décisions qu'ils veulent, puis tu sais, comme, c'est la vie, mais je pense que c'est important de, comme, je suis très une personne qui est pour les décisions éclairées.
Oui, exactement.
C'est prendre une décision en sachant toute l'information, mais c'est comme une petite parcelle d'information qui est bien importante. Mais qui est comme bien tabou. Fait qu'on soit on n'en parle pas, soit on met ça dans une petite case, puis on met ça en arrière. Là. Mais parce que pour nous, c'était vraiment important. Ben, d'un, parce que je suis non-binaire, puis parce qu'on a beaucoup de personnes queer dans notre entourage, puis on voit vraiment l'impact que ça peut avoir, tu sais, comme approche parentale, tu sais, de juste soutenir son enfant coûte que coûte. Oui.
T'avais reçu une question justement, comment gères-tu les gens extérieurs qui demandent ou qui assument le sexe de tes enfants?
Okay. Ben, c'est une super bonne question, puis c'est une question aussi que on me pose souvent, mettons, sur moi, sur mes médias sociaux, bien plus souvent, qui est revenu plus souvent dans les, mettons, 4 dernières années. En fait, il n'y a pas comme de... J'ai pas d'approche universelle pour chaque, mettons, interaction de ce genre-là, mais tu sais, mettons que quand Blair était bébé, ou mettons, chez Willow, qui est un bébé encore, tu sais, on est à l'épicerie, puis quelqu'un est comme... Ah, oh, ben une belle petite fille, parce que, mettons, mon enfant est habillé en rose. Je suis comme, ben merci, bonne journée, tu sais, comme. Puis je poursuis ma vie parce que, tu sais, c'est pas nécessairement comme le moment où j'ai le goût d'éduquer, où j'ai le temps, l'énergie, tout ça. C'est là où je vais prendre le temps, mettons, de faire, mettons, de l'éducation, en guillemets, c'est si c'est quelqu'un de notre entourage, tu sais, mettons, genre, les voisins, tu sais, des gens qui vont interagir avec mes enfants, en fait. Puis, ben, au début, notre famille, c'est sûr qu'on leur a expliqué notre approche. Puis, ben, ces autres respectent comment on élève nos enfants. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment eu besoin d'intervenir de ce côté-là, mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais, Blair a les cheveux longs, très, très longs, et Blair peut faire pousser ses cheveux super longs. Et, fait que souvent, les gens assument que Blair est une fille. Puis, là, maintenant que Blair s'identifie comme garçon, ben, tu sais, des fois, c'est juste Blair qui veut répondre. Ben non, je suis un gars, tu sais. Puis là, il continue sa vie d'enfant de 4 ans. Fait que c'est ça. Des fois, les gens sont comme, OK, mais tu sais, il a les cheveux longs. Mais tu sais, on n'a pas eu de commentaires bien désobligeants. Des fois, tu sens que la personne est un peu comme surprise de la réponse. Ah, tu sais, non, c'est un petit garçon, en fait, mais aujourd'hui, il voulait porter une robe. Oui, c'est un petit garçon, mais il a les cheveux quasiment aux fesses. C'est son choix, tu sais. Mais en général, tu sais, comme... Ça passe bien, mais aussi, tu sais, on habite comme, tu sais, on est en ville où comme il y a beaucoup de diversité déjà. Fait que, tu sais, c'est comme, on n'est pas la seule famille, mettons, dans le quartier qui a la même approche. Tu sais, je croise plusieurs familles, quand on va au parc et tout, tu sais, que je sais que les autres font la même chose que nous, qui ont, mettons, un petit gars qui a le droit. Parce que qui porte des robes, c'est pas un problème. J'ai l'impression parce que dans notre milieu où est-ce qu'on est en ce moment, on passe inaperçu un peu. T'sais. On n'a jamais eu de confrontation, mettons, avec quelqu'un qui était comme choqué
Non,
de
je
ce qu'on
comprends.
faisait.
Mais c'est vrai qu'à Montréal, je pense que les gens sont plus ouverts aussi. Je pense malheureusement, c'est plus en région des fois là, que ça reste
Ouais.
plus traditionnel.
On
Mais
peut être surpris aussi, là,
oui,
tu sais,
c'est sûr.
comme. Mais je pense que c'est surtout qu'on est tellement plus à Montréal que c'est juste qu'il y a plus de diversité. Fait que, tu sais, c'est comme le. Tu ressors moins du lot s'il y en a plusieurs qui te ressemblent, tu sais. Je pense
Mais
que c'est un peu ça.
ça m'inspire ce que tu dis vraiment. Puis tu sais, j'ai un garçon, puis autant que j'essaie de que ce soit non-genré, mon approche, ses vêtements et tout ça, reste que pour certaines choses encore, je suis fermée. Tu sais, porter du rose, on dirait qu'encore une fois, tu sais, je suis pas prête à ça. Puis pourquoi finalement, tu sais, c'est de se poser ces questions-là, tu sais. Ben, je trouve ça super intéressant. Puis tout ce que tu dis, je trouve que, tu sais, pour le bien-être de nos enfants, puis de toutes les générations qui vont venir, tu sais, je trouve que c'est tellement important, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, mais c'est ça, c'est nous, c'est de déconstruire tout comment nous, on a été éduqués aussi, tu sais, c'est ça qui... Hey, je savais pas, moi, que ça venait dans le contrat de devenir parent, tout ça, tu sais,
Mais
c'est comme...
non, là, tu sais, c'est comme tout, hein, il y a toujours des affaires qui se rajoutent. Mais, tu sais, mettons par rapport aux vêtements, là, puis, tu sais, à la présentation, comment ton enfant s'habille, comment
Ses cheveux, puis
son.
tout, ouais.
Ouais. Je pense que c'est le premier step, tu sais, qui est dur à prendre. Tu te dis, OK. Puis après ça, une fois que tu es dans l'eau, là, tu as sauté dans la piscine, là, t'es correct. Parce que, tu sais, je me rappelle plus si c'est quelqu'un qui m'avait écrit un commentaire un peu. Je pense que j'avais reçu une fois un message là, sur Instagram un peu bizarre, tu sais, comme par rapport au fleuri. Parce que moi, je trouve ça super beau du fleuri. Puis j'en faisais beaucoup porter quand. Ben, même encore, Blair, il y a beaucoup d'affaires fleuries. Blair aussi aime beaucoup les fleurs. Quelqu'un a fait un drôle de commentaire, puis j'étais comme. Genre, tu rentres chez Tristan, mettons, là, tu sais, ou genre un magasin de vêtements pour adultes
Adulte.
plus fancy, on va dire.
Hétéro,
Les affaires fleuries, là, mettons, dans la section hommes des chemises, là,
il y en a plein.
il y en a plein. Tu sais, comme, Pourquoi, mettons, qu'un boomer de 60 ans qui porte une chemise fleurie, c'est correct, mais que mon Flo de 2 ans et demi ne peut pas mettre un t-shirt fleuri? Mm-hmm. Ça ne fait pas de sens. T'sais, comme le rose et le saumon, il y a beaucoup d'hommes adultes qui en portent. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est comme correct parce qu'eux autres sont adultes. Fait que tu sais, c'est en tout cas.
Ouais.
C'est, j'avais eu comme cet argumentaire-là, puis la personne est comme ah, oh, ben oui, crime gardon, j'avais jamais pensé à ça. J'étais comme ben oui. Tu sais, les prints pour, en guillemets, petits gars, c'est pas juste.
Des dinosaures et des avions.
Carottés, là, tu sais, des enfants de monde. Mais oui, c'est ça. C'est comme une fois on dit qu'on a comme. Qu'on est prêt à. Je sais pas là, à assumer. Qu'on est prêt à recevoir des petits commentaires, peut-être une couple de fois. C'est mm-hmm. ça, je pense, qui fait peur. T'sais, on ne veut pas que nos enfants se fassent écœurer ou whatever, ou critiquer.
Ouais.
Ça va, mais je pense que souvent, on a peur, mais pour rien, parce que.
Ouais, ouais.
Nous, ça fait 4 ans qu'on fait ça, puis les commentaires des obligeants directs que j'ai eus, je peux les compter sur les doigts d'une main.
Ouais. Des fois aussi, tu penses-tu. Quand peut-être Blair va rentrer au primaire,
mm-hmm.
tu sais, là, les enfants deviennent plus
ouais.
méchants ou comme, tu sais, est-ce que tu anticipes ça un peu, tu sais, qu'il y ait plus de jugement à cet âge-là, tu sais. Là, c'est encore tôt, justement, les enfants sont curieux, ils absorbent un petit peu tout ce qui les entoure, mm-hmm. puis on dirait que rendu au primaire et ainsi de suite, c'est là que. Oui, on devient plus méchant, puis je sais pas, on dirait qu'il y a
ouais.
comme quelque chose.
Ben, oui, mais vraiment, tu sais, comme les enfants, ils n'ont comme pas d'inhibition, surtout. Fait que, tu sais, s'ils ont déjà entendu une fois que mettre du fleuri, c'était pas correct pour les petits gars, ben, ils vont répéter, tu sais.
C'est ça, ouais.
Ben, j'ai travaillé pas un longtemps avec des enfants plus vieux, mais plus vieux sont rock'n'roll aussi quand même, ces commentaires. Mais que je le sais, puis tu sais, comme on anticipe un peu, mais aussi c'est pour ça qu'on veut vraiment... que tu sais,
sensibiliser
tout le monde. Beaucoup de sensibilisation, mais tu sais, qu'on se dit, si Blair est super confortable dans son identité, puis super confiant, ça lui donne l'avantage que, tu sais, si quelqu'un, peut-être, il fait un commentaire désobligeant, ben, tu vas être capable de peut-être, tu sais, répondre de façon, je sais pas, là, tu sais,
mm-hmm.
de gérer ouvert, ça
ouais.
mieux.
Ouais. Tu verras rendu là, j'imagine.
Ouais, c'est ça. T'sais, puis c'est pour voir aussi selon son enfant, son tempérament, comme Blair, c'est un enfant super outgoing, très cyclone,
ouais.
intense. Comme je suis pas trop, on n'est pas trop inquiète en fait qu'il va être capable de s'affirmer parce qu'il s'affirme déjà beaucoup.
OK.
Mettons, je pense que je serais plus stressée si j'avais un enfant super timide, ouais. très. Pas moins confiant, mais il y a des enfants qui ça fait partie. Il y a des gens que leur personnalité, c'est d'être plus discret, mettons.
Oui. Plus réservé, plus
introverti. Plus réservé. Puis qui ont plus de la misère à s'affirmer. Blair, en fait, Blair a un petit peu un trouble de position. Fait que tu sais, lui, si quelqu'un dit quoi, puis ça fait pas son affaire, d'habitude, ça prend pas plus que 2 secondes pour que tu saches qu'est-ce qu'il pense. Fait qu'on n'est pas trop inquiet.
Mais je pense que c'est même pas un trouble. Tu as dit trouble d'opposition, mais je pense que tous les enfants à cet âge-là.
On a beaucoup de TDAH dans notre famille.
Okay. Qu'on est, j'avais parlé avec une psychoéducatrice qui disait, tu sais, c'est vraiment plus tard, le vers comme 6-7 ans, que là, tu peux vraiment diagnostiquer si c'est un trouble.
Oui, ouais, ouais, un vrai trouble. Mais mettons que Blair laisse pas sa place. On va mettre ça de même. C'est sûr qu'au quotidien, ça fait des challenges, mais en même temps, je me dis que pour des situations où peut-être il serait confronté par rapport, mettons, à son identité ou à comment il se projette son identité, on n'est pas trop stressé pour lui.
Il va être capable de se défendre, tu sais.
Ouais.
Ouais.
Tant que c'est avec ses mots, on travaille fort là-dessus.
Oui. Tu avais reçu une autre question aussi. Comment expliquer aux enfants les différences physiques sans tomber dans le genre?
OK. Ben, dans le fond, nous, c'est vraiment... genre les différences physiques, mettons, simples, tout ça, genre vulve.
C'est une bonne question. J'imagine que ça n'a pas été précisé.
Okay. Je vais y aller avec ce que j'assume, ce que la personne veut dire, puis de comment on a expliqué ça à Blair. En fait, tu sais, évidemment, tu sais, mettons, ton enfant, mon enfant sait qu'il a un pénis, il sait quoi un pénis. Tu sais, nous, on est très partie, ça fait très partie de la gang qui disent, OK, ça, c'est des seins, ça, c'est une vulve, maman a un vagin, maman a l'utérus. Tu sais, comme on est très, très clair. Ouais. Je pense que c'est super important de,
ouais. de nommer les choses.
Mots, ouais. De nommer les choses. Fait que Blair, c'est toutes les parties du corps depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que Blair s'est parlé. Puis il sait que ça veut pas dire qu'un, il sait qu'un pénis, ça veut pas automatiquement dire que c'est un garçon. Tu sais, on lui a carrément dit, t'as un garçon, t'as un pénis. Mm. Il y a beaucoup de garçons qui ont des pénis, mm. mais c'est pas tous les garçons qui ont un pénis.
OK.
Tu sais, maman elle a une vulve, mais maman, c'est pas une fille.
Mm.
Beaucoup de filles ont des vulves, mais c'est mm-hmm. pas toutes les filles qui ont des vulves.
OK.
Il y a des filles qui ont des pénis. Mmh. Il y a des garçons.
Fait que ça le conscientise vraiment
ouais.
à ça. Puis est-ce qu'il a déjà posé la question comme à un autre enfant, est-ce que tu es une fille ou un garçon, carrément? Sais-tu?
Non, il n'a jamais demandé okay. ça. Comme, okay. En tout cas, à ma connaissance, là, okay. c'est jamais arrivé. Puis tu sais, pour lui, en tout cas, de ce qu'on peut observer, mettons, là, mm-hmm. de son comment il interagit avec les autres, c'est comme il y a pas comme de. Pour lui, c'est pas. Ça y importe un peu, mettons, ouais. le genre des
autres. Pas grave,
c'est pas une grande importance à ça. Enfin. Pour lui, toutes les personnes. En tout cas, pour l'instant, il semblerait que pour lui, toutes les personnes se valent. Il n'y a pas comme de.
Ouais. ouais. Ça les différencie pas.
Oui, comme personne, c'est une personne. C'est ça.
Mais c'est un super bel apprentissage. Puis je fais une parenthèse aussi par rapport à ce que tu as dit, là, que c'est important de nommer vraiment les orientes. C'est vrai, j'avais parlé aussi avec une psychoéducatrice, je ne me souviens plus. Puis c'est ça, parce que sinon, si tu nommes pas les choses, puis que tu essaies de comme raconter, tu sais, mettons comment qu'on fait des enfants.
Ouais, ouais.
C'est important de le dire comment qu'on fait des enfants et non de comme inventer une histoire qui
ouais,
fait pas de sens. C'est, je pense que ça les sensibilise déjà à ne pas utiliser des mots comme zizi. C'est comme si il y a comme quelque chose de gênant avec ça, alors que non, il n'y a rien de gênant avec ça.
Non, c'est ça. Je suis vraiment d'accord. C'est un peu pour ça aussi. Mais en tout cas, ça fait partie de notre notre approche parentale, en fait, d'être comme super honnête avec nos enfants. Tu sais, on est beaucoup dans la parentalité bienveillante puis dans la parentalité ouverte sur le genre. Je pense qu'en fait, les deux sont la même chose. Puis se complètent à merveille. Fait que c'est, pour nous, tout ça, c'était super important, dont l'honnêteté avec nos enfants. Tu sais, je pense que c'est important. Fait que c'est Blair... On parle de cycle menstruel, tu sais, comme genre adapté, bien sûr, à l'âge d'un enfant.
Ouais,
comme,
ouais.
Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, Blair comprend, puis je pense que les enfants, il faut leur donner comme plus de crédit qu'on leur en donne. T'sais, les enfants sont super wise, puis si tu leur expliques à leur niveau de compréhension, mais d'habitude, ils comprennent bien, ou ils vont te poser des questions juste à ce qu'ils comprennent.
Ouais.
Ouais.
Dans les types de parentalité aussi, tu prônes beaucoup le slow living.
Ouais.
C'est quoi pour toi, justement, la parentalité slow living?
Je pense que ça, il y a bien des approches, bien des façons de le voir. Pour nous, c'est en fait... en ce moment, moi, je travaille un jour semaine. Un peu à cause de la pandémie, un peu à cause de plein d'affaires. Mais même avant la pandémie, je travaillais juste 3 jours semaine. Bien, dans le fond, nous, notre but, c'était que nos enfants aient le temps d'être des enfants. Puis je dis pas que les enfants, mettons, qui vont genre au CPE n'ont pas le temps d'être des enfants. Là. Genre, je ne juge pas personne dans leur choix de parentalité. Mais, par exemple, moi puis mon conjoint, les deux, on a eu des enfants dans le même style. C'est très slow. J'ai jamais été en CPE, mon chum non plus, mon partenaire non plus. Fait que, tu sais, on voulait offrir ce même genre de vibe, tu sais, pas avoir d'horaire. On se lève quand on veut. On va au parc si on a le goût. Tu sais, on a une structure. En fait, on a une routine vraiment établie, parce que ça, c'est hyper important, je pense, pour les enfants. En tout cas, pour mes enfants, c'est très important avoir une routine, pas stricte, mais comme stable, mais c'est en dehors des choses principales, genre les heures de coucher, les repas, puis tout ça, ben notre horaire est comme ouvert. Puis on y va au feeling. Fait que pour nous, c'est plus sous l'eau dans cette optique-là. Tu sais, comme on. Je sais pas.
Ouais.
On se presse pas, on prend le temps d'apprécier la vie puis la petite enfance parce que ça passe vite en tabarouette. Fait que c'est ça. Pour nous, c'est ça. Je sais qu'il y a des personnes que c'est encore plus intense, tu sais, que, ben, intense. Tu sais, que ça va être plus poussé, même qu'ils vont peut-être faire l'école à la maison ou tu sais, qu'ils vont vraiment comme, avoir une approche super minimaliste pour le reste de leur vie en général. Mais pour nous, on n'est pas des minimalistes autrement, là.
OK. Non, mais c'est vrai que ça respecte vraiment le rythme de chaque enfant. Que, tu
Ouais.
sais, je commence à m'intéresser aux écoles Montessori. Je ne sais pas si. Oui, est-ce que toi, ça te parle, ça, ce choix-là de peut-être les
Ben, ça
envoyer
me
à.
parlait vraiment en théorie, comme j'ai lu
OK.
beaucoup, beaucoup là-dessus quand Blair était bébé, puis même si on remonte comme dans mon Instagram, genre, il y a bien longtemps, j'en faisais un peu, tu sais, des activités Montessori, puis je trouvais ça cool, mais personnellement, moi, je trouve que c'est vraiment une belle approche, mais je trouve que, mettons, pour moi, qui est comme TDAH, et pour mes enfants, parce que pour Blair, qui s'enligne un peu là-dessus, c'est comme super, c'est très encadrant, ce qui est bon, mais je suis comme pas capable de maintenir ça. Comme mon cerveau de TDAH ne me permet pas de maintenir ce genre de OK, là, il faut qu'on fasse la rotation des jouets, telle affaire. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de
Je
paramètres.
comprends. Ouais, mais il y a un cadre, ouais. Comme tu dis, il y a quand même un
Il y a un
cadre,
cadre.
malgré que ils prônent, tu sais, vraiment le développement de la
Oui.
créativité puis l'autonomie, tu sais,
Oui.
que ça soit libre, tu sais, ils prônent
Mais c'est
beaucoup
ça.
aussi, là.
C'est comme, c'est ça, c'est très encadré, mais très, ben, ça, très autonome en même temps. Tu sais, il y a des choses que nous, on a pris, des petits bouts de Montessori que je trouvais cool, des petits bouts de Waldorf, des petits bouts de ci, puis de ça. Fait que, mettons, dans notre cuisine, on a une cuisine Montessori. Tu sais, on a la cuisine IKEA pour enfants, la cuisinette, puis c'est comme, là, il y a ses ustensiles, là, il y a sa vaisselle.
T'as-tu mis aussi de l'eau comme parce que tu peux vraiment la faire fonctionner à mettre un.
Ouais. On avait mis un pichet, mais un genre de, tu sais, le genre de pichet d'IKEA que tu peux comme, du Dollarama, tu sais, genre que, ou n'importe où, tu sais, que tu peux juste comme avec une champlure, te remplir un verre d'eau.
Exact.
Puis, en fait, Blair a tellement bu d'eau qu'il a fait une intoxication à l'eau.
Ben
Ouais,
voyons
ça
donc.
la
Attends,
gang,
je
ça
comprends
peut
pas.
la gang, on capotait. Fait qu'on a enlevé le cruchon parce que là, ça avait comme. Il faisait juste boire de l'eau, là. Je pense que ça a comme pris du temps avant qu'on réalise la soirée qu'il a bu, genre 1 litre d'eau, là. Le lendemain, il a été super malade, genre
Ben
super amorphe,
voyons.
c'était vraiment intense. Ça a créé comme un débalancement des électrolytes, là. Ça peut être super dangereux, en tout cas.
Ah, tu
J'ai un
m'apprends
enfant
quelque chose.
intense. J'ai un enfant intense qui ne fait pas les choses à moitié. Fait que là, on a enlevé l'eau, mais le reste est là. Il y a comme ses collations, ses petites affaires.
OK, très cute. Tu peux même mettre un frigo. J'ai
Ah
entendu,
ouais,
j'ai vu
il y a
des
du monde qui a
DIY,
la piscine. Elle est
là.
hot, là. Moi, j'ai pas. Elle est basic, mais ça fait la job, tu sais.
Donc, toi, tu as allaité Blair et aujourd'hui, tu allaites Willow aussi, là.
Ouais.
OK. Tu avais eu une belle expérience ou est-ce que tu avais eu des difficultés en commençant?
Je suis super chanceuse. Ça s'est extrêmement bien passé pour les deux. Puis, en fait, moi, j'avais un peu des craintes par rapport à comment ça allait me faire sentir, justement, l'allaitement par rapport à mon identité de genre et ma dysphorie. La dysphorie, c'est quand tu te sens. C'est un peu compliqué à expliquer. Dans le fond, la dysphorie, c'est le contraire de l'euphorie.
OK.
L'euphorie, c'est comme être bien, être heureux et tout ça. La dysphorie du genre, c'est quand tu te sens vraiment, on va dire, désaligné avec ton genre, tu te sens vraiment comme pas bien. C'est vraiment comme quelque chose qui est comme. Qui apporte beaucoup de stress comme sentiment. Et j'avais peur que l'allaitement me cause de la dysphorie parce que je ressens de la dysphorie par rapport à mes seins en général dans la vie.
Dans le sens que tu préférais ne pas en avoir.
Ouais, j'aimerais vraiment ça pas en avoir, en fait, tu sais.
Parce que c'est trop associé au sexe de la femme, c'est ça?
Ouais. Puis tu sais, c'est comme, on dirait qu'ils font pas partie de moi. C'est vraiment comme difficile à expliquer comme ressenti. Puis j'avais comme peur que justement, allaiter empire ça.
Puis est-ce que c'était le même ressenti quand tu as accouché, vu que ça aussi, c'est vraiment attribué à la femme?
Non, mais tu sais, comme par rapport à mes seins, c'est juste que tu sais, je m'habille, mettons, plus androgyne en général. Tu sais, comme, je suis pas, tu sais, oui, je vais porter des robes, mais tu sais, je vais jamais juste mettre une robe, ça va être pas une robe, puis mettons avec un...
OK.
On dit, plus androgyne comme style. Puis on dirait que les, mes seins ne fonctionnent pas avec comment je m'identifie avec moi-même. Et c'est comme... des seins, tout le monde, comme t'as des seins, t'es une fille. Fait que tu sais, c'est comme... En tout cas, j'ai beaucoup de dysphorie par rapport à mes seins. La dysphorie pendant la grossesse, j'en ai eu plus à ma grossesse avec Blair. Mais quand je savais plus à quoi m'attendre, pour ma deuxième grossesse, c'était comme... Ça s'est mieux passé. Il y avait d'autres affaires plus stressantes, genre une pandémie, tu sais,
ouais.
en même temps.
Ouais.
Fait que c'était comme moins pire. Mais, parce que pour revenir à l'allaitement, j'étais comme inquiète avant de commencer à allaiter. Puis quand j'ai commencé à allaiter, ça m'a un peu réconciliée avec mes seins dans le sens que là, au moins, ils servent à quelque chose, tu sais.
Je comprends.
Ils sont utiles. C'est sûr que j'ai trouvé ça vraiment intense à ma montée de lait avec Blair. Mes seins étaient devenus genre immense. J'étais vraiment comme troublée. J'étais comme vraiment comme pas bien avec ça. Okay. Mais tu sais, bon, ça passait quand même vite. Mais à part ça, c'était comme super. Tu sais, comme j'ai eu une césarienne non planifiée / d'urgence. Puis tu sais, j'ai quand même pu allaiter comme juste après. Tu sais, ils ont mis bébé au sein. Ça s'est bien passé. Puis pour l'allaitement avec Willow, du point de vue, pareil comme là, du point de vue, mettons, mécanique de l'allaitement, ça s'est super bien, ben, ça se passe encore bien. Sauf qu'on a eu des défis, en fait, au niveau, on va dire, alimentaire. Willow a des allergies et c'est comme un type d'allergie qui s'appelle le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Donc, c'est pas une allergie qui va donner un choc anaphylactique, tu sais, comme auquel on pense quand on parle d'allergie.
Ouais.
C'est plutôt une réaction digestive, mais comme extrême, dans le fond. C'est une allergie qui se passe vraiment comme à l'intérieur du système digestif, mais qui va causer, comme dans le fond, des vomissements extrêmement sévères. Donc, pour un petit bébé, ça peut devenir comme... très, très dangereux rapidement parce que ça se déshydrate super vite, un bébé.
Ouais.
Donc, ça, c'était comme notre défi, en fait. Ça, puis des problèmes ORL. Fait que, tu sais, comme l'allaitement, par chance, le côté, on dit, mécanique fonctionne bien parce que, tu sais, sinon, j'aurais pas poursuivi l'allaitement. Comme, honnêtement, là, j'aurais comme le goût d'arrêter d'allaiter parce que je suis sur un régime hypoallergène. Dans le fond, tu sais, comme je mange aucun des allergènes de Willow, puis il y en a plusieurs, puis moi, j'ai des restrictions alimentaires pour moi, pour okay. des problèmes de santé, avec ça comme une diète vraiment limitée en ce moment.
Ouais.
Mais à cause de son syndrome, l'introduction des aliments se fait de façon très, très lente. Il faut introduire chaque aliment. On a toujours comme un aliment comme par jour, pour les petits bébés. Quand ils commencent à la
diversité. Ben, 2-3 jours,
ouais. quand même. C'est ouais. comme un aliment, mettons, sur une semaine. Des fois, c'est même 2 semaines parce qu'il faut qu'on commence par des quantités très, très petites. Puis c'est comme ce qui est particulier. En fait, les allergies, c'est comme un super vaste comme
ouais.
sujet, puis un peu méconnu parce que c'est tellement varié. Mais dans le fond, lui, avec le type d'allergie qu'il y a, Willow peut réagir à n'importe quoi. Donc, c'est un de ses allergènes, c'est les patates douces, tu sais.
Ah ouais, puis il y en a comme partout.
Ben, c'est moins pire. Genre, là, le pire, c'est soya. Soya, c'est comme traître parce qu'il y a du soya dans tout ce qui est transformé, en fait.
Mm.
Mais tu sais, c'est ça. Fait tu sais, n'importe quel aliment, même si tu te dis, c'est super, genre, insignifiant, il n'y a rien qui va se passer avec ça. Genre, patate douce, qui est comme un truc que tout le monde donne à leur bébé parce que c'est comme super bon pour la santé, puis comme simple.
Puis que tous les enfants aiment ça parce qu'il y a un petit goût sucré, puis la texture.
Exactement.
Ouais.
Ben ça, tu sais, on a failli se ramasser à l'urgence.
Aïe, 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 OK.
Fait qu'il faut tout essayer sur comme plusieurs jours. Fait que c'est comme, ça diversifie. Willow n'est pas super diversifié dans son alimentation.
OK.
C'est comme on a genre 19 aliments seulement dans sa diète. Fait que c'est, j'ai pas le choix d'allaiter. Parce que sinon, sa diète n'est pas assez complète.
Il n'y a pas assez les nutriments.
Non, c'est ça.
Il y a besoin.
Il y a des laits hypoallergènes qui existent, mais il a fallu qu'on commence ça quand Willow était plus jeune parce que ces laits-là, c'est vraiment dégueulasse. c'est comme, c'est
le super. Le goût, tu veux dire, là?
Oh ouais, ça sent, t'ouvres la canne, ça sent comme le foin. Lui, son truc, c'est comme, c'est un truc en prescription, là, c'est, ça s'appelle, ben, il y a comme plusieurs marques, là, mais lui, c'est Neocate, qui est comme pur amino, mais c'est comme des acides aminés. Fait que c'est comme, tu sais, il y a pas de, c'est fait en laboratoire, là, il y a comme vraiment, il y a pas de lait de vache, il y a pas de soya, rien d'autre. C'est vraiment, genre, c'est épouvantable, le goût. Tu sais, vu qu'on n'a pas introduit ça assez tôt,
Ben, là, il comme... sait, là, il trouve pas ça bon.
Non, non. Puis, ouais. Boulot ne veut rien savoir. même dans un smoothie, là, mettons, ça goûte tellement acre que, en tout cas, ça marche pas. Fait que là, j'allaite encore. Mais là, je commence à être tannée. Tu sais, là, j'ai allaité là, jusqu'à ma grossesse. En fait, j'ai arrêté pendant ma grossesse avec Willow parce que ça me donnait beaucoup de nausées. Puis j'étais comme plus capable. Fait que j'ai arrêté à ce moment-là. Mais ouais, fait que là, Willow est encore allaité, mais c'est ça. C'est moins plaisant, mettons, vu que c'est très, très limitant en ce moment parce que c'est ça. Les allergies alimentaires, là, c'est quelque chose.
On n'en parle pas assez là, dans mes podcasts, ça la donne comme ça, là, mais je sais que c'est très répandu là, des enfants qui ont beaucoup d'allergies alimentaires. Ouais.
Puis c'est de plus en plus répandu. En tout cas, la théorie en cours, ce serait qu'à cause de la pollution et du changement environnemental, parce qu'il n'y en avait pas autant que ça, des allergies comme sévères, on va dire, les intolérances, il y en avait probablement toujours autant, mais c'est juste comme pas diagnostiqué. Regarde, ton bébé, il a des coliques. Il braille 12 heures par jour, mais tu sais, whatever, tu sais. Probablement que ces bébés-là avaient des intolérances, t'sais. Probablement au lait de vache parce que c'est la plus commune, mais comme les vraies, mettons, allergies, il y en a de plus en plus. C'est quelque chose. Mais ça risque de partir. Comme ce qui est moins pire avec les allergies infantiles, c'est que souvent ça part autour de 5 ans, ça devrait être réglé. Fait qu'on espère, parce que là, il y a quand même 7 aliments réactifs. Fait que c'est beaucoup.
Non, j'imagine. Ça complique la tâche. Puis les repas, est-ce que Blair est sélectif ou ça se passe quand même bien? Il mange un peu de tout?
Blair?
Ouais.
Ouais, on est vraiment chanceux. Non, on est végétalien, en fait.
OK.
Fait que, tu sais, Blair a toujours mangé beaucoup de légumes. Tu sais, dès le départ, on n'a pas de problème, mettons, pour... il n'est pas difficile, on va dire. Tu sais, quand on est pas avec un enfant de 4 ans, là, des fois, il va avoir des phases que là, ça, il n'aime plus telle affaire. Tu sais, on passe tous par là, je pense.
Ouais.
Mais en général, on est chanceux parce que ça va super bien, tu sais. Il va être aventureux pour goûter des nouvelles affaires. Ce qui est plus compliqué, mettons, c'est je suis toujours en train de faire plusieurs repas différents parce que, mettons, moi, je peux pas manger de gluten, puis telle affaire, ou l'autre peut pas manger de soya, puis telle affaire.
OK. Ça doit être compliqué des fois.
Oui, c'est un peu compliqué.
Ben, merci beaucoup, honnêtement. Je veux dire, on aurait pu continuer, mais là, je vais te laisser retourner à tes petits bébés parce que c'est ça, ils vont pas à la garderie, tes œufs.
Non, ils sont... Ouais.
T'es bonne, mais en même temps, pour être dans tes souliers aussi, ben j'en ai juste un, là, mais tu sais, c'est le fun, tu sais, puis comme tu dis, ça passe tellement vite que je me dis, je pense que je regretterai jamais de passer autant de temps avec mes enfants, tu sais, même si des fois, tu sais, on, pas qu'on se prive, mais tu sais, des fois, il y a des trucs qu'on peut pas faire, mais en même temps, c'est ça, tu sais, je pense qu'on le regrettera jamais.
Ouais, je pense ça aussi.
Bon, je vais te laisser aller. Ben merci encore.
Ça me fait plaisir.
On parle bientôt.
Ben oui.
Merci. Bye bye.